D'abord l'évangile de Matthieu. Ce sera au chapitre 12 que nous lirons les versets 38 à 41. Matthieu, chapitre 12, verset 38. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Jésus leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et puis, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, c'est une histoire que Jésus raconte qui parle certainement de la réalité. En ce sens, ce n'est pas une parabole comme d'autres histoires qu'il invente à partir de la nature. Ici, il s'agit d'un pauvre qui s'appelait Lazare et d'un riche qui était tellement égoïste qu'il ne voyait pas le pauvre à sa porte qui mourait de faim. Et tous les deux meurent. Et nous allons lire juste ce qui est dit à propos du riche, donc dans l'évangile de Luc au chapitre 16, les versets 23 et suivants. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Nous sommes frappés, quand nous lisons les évangiles, de voir les miracles nombreux que Jésus a accomplis. Il prouve sa puissance et son amour. Mais nous pouvons aussi être étonnés quand Jésus refuse de faire un miracle. Nous venons de connaître, plusieurs d'entre nous et notre Église en général, plusieurs épreuves. Et nous pouvons nous demander, alors que nous avons demandé à Dieu d'intervenir pour des situations précises, pourquoi il n'a pas accompli le miracle que nous lui avions demandé d'accomplir. Alors nous trouvons dans les réponses de Jésus plusieurs arguments. Ils sont différents selon les situations. Ils ne s'appliquent donc pas à toutes les situations. Et donc il nous faut faire attention à ne pas nous enfermer, nous ou les autres, dans un raisonnement qui, pour notre situation, ne serait pas vrai. Le fait que le Seigneur ne répondent pas comme nous le lui demandons, ne remet en tout cas pas sa puissance en question, ni même peut-être notre foi en lui. Il nous donne donc des arguments qui sont valables pour nous aujourd'hui encore. Alors, je vous propose de voir quelques-unes de ces raisons que Jésus a données pour répondre au fait qu'il n'a pas toujours accompli le miracle demandé. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 58, et non pas au chapitre 13, je crois que je me suis trompé sur la feuille, il est dit « Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de l'absence de leur foi. » Ces personnes, c'était des hommes religieux, refusaient de reconnaître en Jésus, non, c'est au chapitre 13, pardon, que Jésus avait grandi avec eux et ils ne pouvaient concevoir qu'il était le Messie. Il était, selon eux, un homme comme les autres. Et alors cette absence de foi, je crois qu'elle est bien différente du doute qui peut nous habiter, qui se mêle en même temps à la confiance en Dieu. C'est exactement ce que ce père dit quand Jésus est devant son fils malade. Quand il dit « Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi, de mon incrédulité. » Les deux peuvent cohabiter. Ce que nous remarquons, c'est que juste après, Jésus guérit ce fils. Ce que nous voyons donc ici, c'est que le Seigneur n'intervient pas, même si on le lui demande, lorsqu'on refuse délibérément de croire qu'il est Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et au verset 6, Jésus répond à ses frères qui sont incrédules. Les frères, donc les fils de Marie et de Joseph, qui demandaient à Jésus, « Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voit. » Et Jésus répond, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. » Pas de miracle au moment où ses frères lui demandent d'en faire ou d'aller voir ailleurs pour en tout cas en accomplir d'autres. En reprenant cet argument de Jésus du temps de Dieu qui n'est pas le nôtre, nous ne refusons pas de croire que Dieu n'accomplit pas de miracle aujourd'hui, mais que notre compréhension du temps de Dieu n'est pas la même que celui que le temps de Dieu. Dire « ce n'est pas le temps de Dieu » n'est certainement pas manquer de foi, c'est peut-être accepter qu'il a un autre plan que le nôtre. Nous ne maîtrisons pas l'emploi du temps de Dieu. Et notre soumission doit nous faire accepter qu'il ne réponde pas toujours au moment où nous le voulons. Dire au Seigneur, quand ton temps sera venu et de la manière que tu choisiras, je sais que tu interviendras, c'est alors attacher de l'importance au plan de Dieu, plus qu'au nôtre. J'ai pensé aussi à la tentation que Jésus connaît dans le désert, quand Satan vient à trois reprises le tenter. Et quand Satan souffle à Jésus de se jeter du haut du temple en affirmant que Dieu interviendra en envoyant ses anges pour le porter, alors Jésus répond, « Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Ce verbe, traduit dans la version du semeur par « forcer la main de Dieu », peut être traduit par « éprouver » ou « tenter Dieu ». C'est l'attitude qu'Israël a manifestée dans le désert. Et Paul, dans son épître aux Corinthiens, chapitre 10, de la première épître, reprend cet épisode en disant « Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns du peuple d'Israël qui périrent par les serpents. » Cette attitude révèle un état de révolte contre Dieu, où l'on met à l'épreuve la bonté, la patience de Dieu, où l'on essaye d'aller au-delà de ce que Dieu veut donner, où, comme Satan envers Jésus, on prend les promesses et la parole de Dieu pour faire pression sur lui. Seigneur, tu l'as dit, donc tu dois. Où l'on ne sait pas, ou alors que l'on ne veut pas, voir l'essentiel, certainement comme les Israélites l'ont vécu, si Dieu est au milieu de nous, qu'il le montre. Oui, vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu. Pour revenir à la tentation que Jésus a connue dans le désert, Jésus discerne que la tentation de Satan est de demander un miracle pour sa propre gloire. Mais à la fin de sa vie, Jésus pouvait dire « Dieu a été glorifié en moi ». Voilà le but essentiel pour Jésus, que sa vie soit à la gloire de son Père. Il peut être quelquefois difficile de discerner si l'exaucement de notre prière servirait Dieu ou notre orgueil ou notre égoïsme. En tout cas, le but qui habitait profondément l'apôtre Paul était clair, que maintenant, comme toujours, Christ soit glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Et au lieu d'anéantir les interventions de Dieu dans sa vie à travers cette approche que Paul avait, les interventions de Dieu ont été tellement nombreuses pour Paul. J'en arrive au texte que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Et là, il y a plusieurs raisons qui sont données par Jésus dans ce texte. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Nous voudrions te voir faire un signe miraculeux, parce que le mot signe et le mot miracle sont dans le même terme en grec. En fait, ces religieux étaient poussés peut-être par la curiosité, peut-être par le goût du sensationnel et en tout cas par le sens de la provocation. Ils donnaient l'apparence d'obéir à Dieu, mais pratiquement, c'était le contraire. Jésus les traite d'infidèles, d'adultères. Alors oui, comment Dieu pourrait répondre à ceux qui délibérément lui sont opposés? C'est évident que le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits, mais en tout cas que notre cœur soit tourné vers lui. En fait, Dieu a accompli le miracle le plus grand et le seul nécessaire, répond-il à ses scribes et à ses pharisiens, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. Quand il dit un signe, un miracle, il ne sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Oui, on peut réclamer des œuvres puissantes de Dieu, croire qu'il peut accomplir des miracles extraordinaires, mais la plus grande des interventions a été et restera la mort et la résurrection de Jésus. À toi la gloire, au ressuscité. C'est là la base de tout. Mais voilà, ce miracle est difficile à admettre, parce qu'il dépasse le raisonnement cartésien qui nous anime, parce qu'il parle de mort, et dans notre société, cela signifie l'échec, parce qu'il a eu lieu pour nous il y a 2000 ans, parce qu'en fait, et surtout peut-être, pour l'accepter, il faut passer par la repentance, et donc la mort à soi-même. Tout passe par la mort et la résurrection de Jésus. Ce miracle est suffisant pour nous, toujours efficace, toujours vivant pour nous aujourd'hui. Jésus revient plus tard, une nouvelle fois, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, alors que le premier récit était au chapitre 12, sur ce seul miracle essentiel de la mort et de la résurrection qu'il va connaître. Mais ensuite, il y a un argument supplémentaire qu'il ajoute, il montre aux pharisiens qu'ils ne savent pas comprendre les choses spirituelles. Et ça, je crois que c'est aussi notre problème. Vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel. Ça veut dire que vous vous y connaissez en matière de météo, ou d'une manière plus élargie pour tout ce qui concerne les choses humaines. Mais vous êtes incapable de reconnaître les signes ou les miracles des temps. Ah, il est bien malheureux, celui qui sait prévoir le temps à venir et qui ne sait pas voir le temps de Dieu, qui ne sait pas voir les interventions de Dieu. En fait, cette discussion de Jésus avec les pharisiens vient juste après les deux multiplications des pains. Et pourtant, ces religieux demandent à Jésus un miracle. La vie du chrétien est parsemée de ces signes, de ces interventions divines, mais qu'il est difficile de les discerner. Parce qu'on ne sait pas prendre le temps souvent pour réfléchir sur les événements, réfléchir sur les échecs, réfléchir sur les bénédictions et leur portée spirituelle pour notre vie. Alors on demande un signe, une preuve de l'amour de Dieu, de sa puissance, peut-être un peu comme ces enfants qui se voient refuser de la part de leurs parents une de leurs demandes, ce qui alors les fait remettre en question leur amour. Ces passages, en tout cas, nous rappellent que l'essentiel est dans l'œuvre de Jésus. Il est mort et il est ressuscité. Et puis, il y a cette histoire que Jésus raconte de Lazare et du mauvais riche dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Cette histoire parle du désir de voir des miracles pour que beaucoup soient convaincus de l'importance de vivre avec Dieu. En cela, c'est quelque chose de tellement louable, on est d'accord. Et il est répondu à deux reprises, vous avez la parole de Dieu. Non à la résurrection de mort, mais la parole de Dieu est là. Parce que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle est la parole vivante et permanente de Dieu. Alors aujourd'hui, d'une manière certainement accrue, et même dans les milieux chrétiens et évangéliques, on se retrouve devant la même attente. Une génération qui veut des miracles, comme elle l'entend, qui veut voir des choses extraordinaires, mais qui refuse l'enseignement biblique. La parole est suffisante. La base du salut, la base de la vie, de la marche avec Dieu, n'est pas l'expérience, mais la parole de Dieu. La véritable foi est fondée sur l'Écriture. Lorsque Satan suggérait à Jésus de réclamer un miracle en transformant des pierres en pain, quand même après 40 jours de jeûne, c'était quand même normal. Et le signe d'une bénédiction toute particulière est bien adapté. Mais Jésus l'a refusé en affirmant la primauté de la parole de Dieu sur la dimension physique. Cela n'exclut absolument pas le fait que Dieu peut toucher le corps et d'autres domaines, aujourd'hui encore. Mais la parole de Dieu est le fondement qui permet de le connaître. Dans le livre des Actes, non, à la fin du livre de l'évangile de Marc au chapitre 16, il est dit, les disciples allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Mais nous voyons là que la parole n'est pas au service des miracles, qui serait le summum, le but de la prédication, mais le contraire. La prédication de la parole permet d'écouter Dieu, permet de le rencontrer. Quand la Samaritaine dit aux habitants de son village tout ce que Jésus a révélé sur elle, sur sa vie, alors ils sont intéressés de rencontrer Jésus. Mais ensuite, leur foi devient autrement solide. Et ils disent, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, de ce miracle de la prophétie où il a révélé toute ta vie, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. L'apôtre Paul dit, Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors cela nous conduit à cette autre constatation que Jean rapporte au chapitre 12 de son évangile. Malgré le grand nombre des signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Idem pour les frères de Jésus, qui le rejetaient pour la même raison. Pars d'ici afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais, car ses frères ne croyaient pas en lui. Malgré les miracles, il y a le refus de croire. D'autres passages soulignent la superficialité de la foi de ceux qui, pourtant, ont cru en Jésus parce qu'ils l'ont vu faire des miracles. Une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et cette curiosité, ce voyeurisme, l'emportait sur une foi profonde qui s'appuierait sur l'enseignement de Jésus. Beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait, mais Jésus ne se fiait pas à eux car il les connaissait tous très bien. Il connaissait le fond de leur cœur. Jean chapitre 2. Cette foi qui repose sur des faits extraordinaires n'est en fait souvent pas solide. Un peu comme si un mari aimait sa femme parce qu'elle faisait une bonne cuisine. Son attachement à sa femme ne tiendra pas longtemps. Non pas parce qu'elle s'arrêterait de faire de la bonne cuisine, mais parce qu'il y a des éléments autrement attachants. Et vient tout de suite après, nous avons lu ce verset dans l'évangile de Jean, la fin, vient l'épisode de l'entretien avec Nicodème, où Jésus montre que la foi réelle découle de la nouvelle naissance, parce qu'elle est l'œuvre de Dieu et parce qu'elle touche profondément la personne alors. Alors oui, le Seigneur veut ainsi nous apprendre comment considérer sa puissance. Il est nécessaire de discerner les plus grands miracles, c'est-à-dire les plus importants et peut-être pas les plus spectaculaires. Sa parole est un miracle extraordinaire, un miracle renouvelé. C'est elle qui nous affermit, qui nous transforme, qui nous renouvelle. Alors concrètement, cette semaine, est-ce que nous avons lu cette parole? Est-ce que nous nous en sommes nourris? Et ce qui y est associé, c'est Jésus, lui qui est appelé la parole. Sa vie a été parfaite. Son œuvre a été suffisante pour tout. L'apôtre Paul dira, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Dans nos épreuves, où il peut nous sembler que Dieu n'intervient pas, sa parole et son œuvre à la croix nous assurent sa présence apaisante ainsi que son soutien aujourd'hui et chaque jour. Quel miracle !